Annexe à la troisième édition allemande, 1891 entre parenthèses, publiée sous la direction d'Engels. La colonne de prisonniers s'arrêta dans l'avenue Ulrich et fut rangée en quatre ou cinq rangs sur le trottoir face à la chaussée. Le général marquis de Galiffet et son état-major mirent pied à terre et commencèrent une inspection par la gauche du rang. Descendant lentement et reluquant les rangs, le général s'arrêtait de ci, de là, frappant un homme à l'épaule ou le faisant sortir des rangs. Dans la plupart des cas, sans plus ample conversation, l'individu ainsi choisi était poussé au centre de la chaussée, où une petite colonne supplémentaire fut ainsi bientôt formée. Il y avait largement place pour l'erreur. Un officier monté désigna au général de Galiffet un homme et une femme en raison de quelques offenses particulières. La femme protesta de son innocence en termes passionnés. Et alors, avec un visage tout à fait impassible et une tenue sans émotion, il lui dit, ouvrez les guillemets, « Madame, j'ai été dans tous les théâtres de Paris. Votre jeu n'aura aucun effet sur moi. Ce n'est pas la peine de jouer la comédie. » Fermez les guillemets. Ce n'était pas un bon point d'être, ce jour-là, remarquablement plus grand, plus sale, plus propre, plus laid que ses voisins. Un individu, en particulier, me frappa, comme devant son rapide congé des douleurs de ce monde, au fait qu'il avait le nez cassé. Plus d'une centaine ainsi choisies, un peloton d'exécution les prit en charge, et la colonne reprit sa marche, laissant les condamnés en arrière. Quelques minutes après, un feu roulant commença à notre arrière-garde et continua plus d'un quart d'heure. C'était l'exécution de ces malheureux si sommairement condamnés. Ouvrez la parenthèse. Correspondance de Paris du Daily News, 8 juin, fermez la parenthèse. Ce Galiffet, ouvrez les guillemets, le souteneur de sa femme, si célèbre pour ses exhibitions éhontées dans les orgies du Second Empire, fermez les guillemets, mérita pendant la guerre la réputation d'un, ouvrez les guillemets, enseigne pistolet, fermez les guillemets, français. Le Temps, qui est un journal prudent et qui ne donne pas dans la sensation, raconte une épouvantable histoire de gens mal exécutés et enterrés avant que la vie fût éteinte. Un grand nombre furent brûlés sur la place derrière Saint-Jacques-la-Boucherie, certains d'entre eux très superficiellement. En plein jour, le grondement des rues animées empêchait de rien remarquer, mais dans le calme de la nuit, les habitants des maisons du voisinage furent éveillés par des gémissements lointains, et au matin, une main crispée fut aperçue perçant le sol. On donna l'ordre, en conséquence, d'entreprendre des exhumations. Que beaucoup de blessés aient été enterrés vivants, je n'en ai pas le moindre doute. Quand Brunel fut exécuté avec sa maîtresse, le 24 mai dernier, dans la cour d'une maison de la place Vendôme, les corps restèrent là jusqu'au 27 après-midi. Quand les fossoyeurs vinrent enlever les cadavres, ils trouvèrent la femme encore en vie. Ils la portèrent à l'ambulance, ouvrez les guillemets, bien qu'elle eût reçu 4 balles, elle est maintenant hors de danger, fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, correspondance de Paris, de l'Evening Standard, 8 juin, fermez la parenthèse. Jules Favre sur l'international. La lettre suivante parut dans le Times de Londres, du 13 juin 1871. Elle fut écrite par le secrétaire de l'Association internationale des travailleurs et jette passablement de jour sur le caractère de Jules Favre. Les quelques lignes de commentaires qui suivent la lettre sont empruntées à l'édition allemande courante de la guerre civile en France, éditée par Friedrich Engels et publiée à Berlin en 1891. aux éditeurs du Times. Monsieur, le 6 juin 1871, M. Jules Favre a lancé une circulaire à toutes les puissances européennes, en appelant à elle pour une chasse à mort contre l'Association internationale des travailleurs. Quelques remarques suffiront à caractériser ce document. Dans le préambule même de nos statuts, il est déclaré que l'Internationale fut fondée, ouvrez les guillemets, le 28 septembre 1864 dans un meeting public tenu à St. Martin's Hall, Langacre, Londres. Fermez les guillemets. Pour des raisons qui lui sont personnelles, Jules Favre rejette la date de son origine avant 1862. En vue d'expliquer nos principes, il déclare citer sa feuille de l'Internationale, entre parenthèses, du 25 mars 1869. Et que cite-t-il ? La feuille d'une société qui n'est pas l'Internationale. Cette sorte de manœuvre, il y a déjà eu recours lorsque, alors encore relativement jeune avocat, il eut à défendre le journal Le National, poursuivi par Cabet pour diffamation. Il prétendit alors lire des extraits des pamphlets de Cabet, tout en lisant des interpolations de son cru, expédient dévoilé à la séance même du tribunal, et qui, n'eût été l'indulgence de Cabet, eût entraîné l'expulsion de Jules Favre du barreau de Paris. De tous les documents cités par lui comme des documents de l'International, pas un n'appartient à l'International. Il dit par exemple, ouvrez les guillemets, l'Alliance se déclare athée, dit le Conseil général constitué à Londres en 1869, fermez les guillemets. Le Conseil général n'a jamais publié de document semblable. Au contraire, il a publié un document qui met à bas les statuts d'origine de l'Alliance. L'Alliance de la démocratie socialiste de Genève, citée par Jules Favre. D'un bout à l'autre de sa circulaire, qui prétend aussi être en partie dirigée contre l'Empire, Jules Favre ne fait que répéter sur l'International les inventions policières des accusateurs publics de l'Empire et qui se sont écroulées misérablement même devant les cours de justice de cet empire. On sait que dans ces deux adresses, ouvrez la parenthèse, de juillet et de septembre dernier, fermez la parenthèse, sur la récente guerre, le Conseil général de l'International a dénoncé le plan prussien de conquête aux dépens de la France. Plus récemment, M. Rettlinger, secrétaire personnel de Jules Favre, fit appel, bien entendu vainement, à quelques membres du Conseil général pour soulever, par l'intermédiaire du Conseil, une manifestation contre Bismarck en faveur du gouvernement de la défense nationale. Ils furent particulièrement invités à ne pas nommer la République. Des préparatifs de démonstration furent faits à l'intention de l'arrivée attendue de Jules Favre à Londres, certainement dans les intentions les meilleures, en dépit que le Conseil général, dans son adresse du 9 septembre, eut formellement mis en garde les ouvriers de Paris contre Jules Favre et ses collègues. Que dirait Jules Favre si, à son tour, l'International envoyait une circulaire sur Jules Favre à tous les cabinets d'Europe, attirant leur attention particulière sur les documents publiés à Paris par feu M. Millière ? Je suis monsieur, votre obéissant serviteur, John Hels, secrétaire du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs. 256 High Holborn Street, WC, le 18 juin 1871. Dans un article sur, ouvrez les guillemets, l'Association internationale et ses buts, fermez les guillemets, le Spectator de Londres, en pieux informateur qu'il est, cite, entre autres exploits semblables, et cela encore plus complètement que Jules Favre l'a fait, le document ci-dessus mentionné de l'Alliance, entre guillemets, comme l'œuvre de l'International. Et cela a été fait 11 jours après la publication de la réplique ci-dessus dans le Times. Ceci ne nous surprend pas. Il y a longtemps, Frédéric le Grand aimait à dire que de tous les jésuites protestants étaient les pires. Lettre de Karl Marx à Kugelmann. Londres, 14 février 1871. Cher Kugelmann, c'est avec un profond regret que j'ai appris par ta dernière lettre que ton état de santé a empiré de nouveau. Quant à moi, ma santé fut passable pendant les mois d'automne et d'hiver, quoique la toux que j'ai contractée lors de mon dernier séjour à Hanovre dure encore actuellement. Je t'avais adressé le numéro des Daily News qui contenait ma lettre. Il a probablement été saisi, comme les envois précédents. Je te joins cette fois la coupure ainsi que la première adresse du Conseil général. À vrai dire, la lettre ne contenait rien d'autre que des faits, mais elle n'en a justement que plus de portée. Tu sais quelle opinion j'ai des héros de la classe moyenne. Messieurs Jules Favre, ouvrez la parenthèse, fameux depuis le gouvernement provisoire et l'époque de Cavaignac, fermez la parenthèse, et compagnie, ont cependant dépassé mon attente. Ils ont commencé par permettre à ce sabre orthodoxe, à ce crétin militaire, c'est ainsi que Blanqui caractérisait Trochu, à juste raison, de réaliser son plan. Ce plan consistait simplement à prolonger la résistance passive de Paris jusqu'à la dernière extrémité, c'est-à-dire jusqu'à l'état de famine, et par contre de limiter l'offensive à des manœuvres simulées, à des sorties platoniques. Ce n'est pas là une simple « supposition » entre guillemets de ma part. Je connais le contenu d'une lettre que Jules Favre a lui-même écrite à Gambetta, et où il se plaint de n'avoir pu, ni lui, ni ceux des autres membres du gouvernement qui étaient blottis à Paris, pousser Trochu à de sérieuses mesures d'offensive. Trochu répondait toujours que la « démagogie parisienne » entre guillemets aurait ainsi le dessus. Gambetta lui répondit, ouvrez les guillemets, « Vous avez prononcé votre condamnation, fermez les guillemets. » Plutôt que de battre les Prussiens, Trochu trouvait bien plus important de réprimer les Rouges à Paris, avec ses gardes du corps bretons qui lui rendaient les mêmes services que les Corses à Louis Bonaparte. Tel est le véritable secret des défaites, non seulement à Paris, mais partout en France, où la bourgeoisie a agi d'après le même principe, d'accord avec la majorité des autorités locales. Après que le plan de Trochu eut été mené jusqu'à son apogée, jusqu'à ce que Paris dût se rendre ou mourir de faim, Jules Favre et compagnie n'avaient tout simplement qu'à suivre l'exemple du commandant de la citadelle de Toul. Il ne capitula pas. Il déclara simplement aux Prussiens que le manque de vivres le forçait à abandonner la défense et à leur ouvrir les portes. Il pouvait donc faire ce qu'il leur plairait. Mais Jules Favre ne se contenta pas de signer une capitulation formelle. Après avoir déclaré que lui-même, ses collègues du gouvernement de Paris, étaient prisonniers du roi de Prusse, il eut l'impudence d'agir au nom de la France tout entière. Que savait-il de l'état de la France en dehors de Paris? Absolument rien, sauf ce que Bismarck avait la gracieuseté de lui communiquer. Mieux encore, ces messieurs les prisonniers du roi de Prusse vont plus loin et déclarent que la partie libre encore du gouvernement français à Bordeaux a perdu ses pleins pouvoirs et ne peut plus agir que d'accord avec eux, avec les prisonniers du roi de Prusse. Et puisque, comme prisonniers de guerre, ils ne pouvaient agir que sous la dictée de leur vainqueur, ils proclament ainsi de facto le roi de Prusse, autorité suprême en France. Louis Bonaparte lui-même, après avoir capitulé et s'être rendu à Sedan, eut plus de pudeur. Répondant aux propositions de Bismarck, il déclara qu'il ne pouvait s'engager dans aucune négociation, ayant, comme prisonnier prussien, cessé de jouir en France d'une autorité quelconque. Jules Favre pouvait tout au plus, sous condition, accepter un armistice pour toute la France, c'est-à-dire sous réserve de la ratification de cet accord par le gouvernement de Bordeaux, qui seul alors avait qualité et pouvoir de convenir des clauses de cette trêve avec les Prussiens. Il n'aurait certes pas permis à ces derniers d'exclure de l'armistice la partie orientale du théâtre de la guerre. Il n'aurait certes pas permis aux Prussiens d'arrondir d'une façon si avantageuse leur ligne d'occupation. Rendu insolent par l'usurpation commise par ses prisonniers, qui, comme tels, continuaient à jouer au gouvernement français, Bismarck intervient sans gêne dans les affaires intérieures de la France. Il proteste, le gentilhomme, contre le décret de Gambetta relatif aux élections générales à l'Assemblée, sous prétexte qu'il porte atteinte à la liberté électorale. Vraiment, Gambetta aurait dû répondre par une protestation contre l'état de siège et contre les diverses entraves qui, en Allemagne, anéantissent la liberté des élections au Reichstag. Je souhaite que Bismarck s'en tienne à ces conditions de paix. 400 millions de livres sterling comme contribution de guerre, la moitié de la dette anglaise. Les bourgeois eux-mêmes comprendront cela. Ils finiront peut-être par comprendre que, dans le pire des cas, ils ne peuvent que gagner à la continuation de la guerre. La populace du grand monde et du vulgaire ne juge que par l'aspect de la façade, le succès immédiat. Pendant 20 ans, elle a fait l'expérience de Louis Bonaparte par le monde entier. En fait, même à son apogée, je l'ai toujours démasqué comme une canaille médiocre. J'ai la même opinion du Junker Bismarck. Néanmoins, je ne tiens pas Bismarck pour aussi sot qu'il le paraîtrait si sa diplomatie était sans contrainte. Cet homme a été empêtré par la chancellerie russe dans des filets que seul un lion pourrait déchirer. Et il n'est pas un lion. Par exemple, Bismarck exige que la France lui livre ses 20 meilleurs vaisseaux de guerre et, dans l'Inde, Pondichéry. Une telle idée ne pourrait émaner d'un véritable diplomate prussien. Il saurait, en effet, que Pondichéry, une fois prussienne, ne serait qu'un gage prussien entre les mains de l'Angleterre, que celle-ci, si elle le veut, peut capturer les 20 vaisseaux prussiens avant qu'ils soient entrés dans la Baltique, et que de telles exigences ne peuvent avoir, du point de vue prussien, que le but absurde d'inspirer de la défiance à John Bull avant que les Prussiens soient hors des fourrés français. Mais la Russie avait intérêt à amener précisément ce résultat pour s'assurer davantage encore le vassalage de la Prusse. En fait, ces exigences ont amené un revirement complet, même dans la pacifique classe moyenne d'Angleterre. Maintenant, tout le monde réclame la guerre à grands cris. Cette provocation adressée à l'Angleterre et cette menace à ses intérêts affolent même les bourgeois. Il est plus que vraisemblable que, grâce à cette « sagesse » entre guillemets prussienne, Gladstone et compagnie seront mis à la porte du ministère et remplacés par un cabinet qui déclarera la guerre à la Prusse. D'autre part, en Russie, la perspective est peu rassurante. Depuis la métamorphose de Guillaume en empereur, le parti vieux moscovite, anti-allemand, avec l'héritier du trône en tête, a complètement repris le dessus. Et il a l'opinion publique pour lui. Il n'entend rien à la subtile politique de Gortchakov. Aussi est-il probable que le tsar devra, ou bien changer complètement l'orientation de sa politique extérieure, ou bien qu'il devra mordre la poussière, comme ses prédécesseurs Alexandre Ier, Paul et Pierre III. Si, en Angleterre et en Russie, un semblable bouleversement de la politique avait lieu simultanément, qu'adviendrait-il de la Prusse en un moment où ses frontières du Nord-Est et du Sud-Est sont ouvertes à n'importe quelle invasion, où la force armée de l'Allemagne est épuisée? Ne pas oublier que l'Allemagne prussienne a envoyé depuis le début de cette guerre jusqu'à maintenant 1 500 000 hommes en France, et qu'il n'en reste plus qu'environ 700 000 sur pied. Malgré l'apparence du contraire, la situation de la Prusse n'est donc rien moins qu'agréable. Si la France tient, si elle utilise l'armistice à la réorganisation de son armée et donne enfin à la guerre un caractère vraiment révolutionnaire, et ce rusé de Bismarck fait tout son possible à cette fin, le jeune empire borusso-germanique pourrait bien encore recevoir en baptême une bâtonnade tout à fait inattendue. Ton Karl Marx. Ouvrez la parenthèse. Dans cette lettre se trouvait une coupure du Daily News de Londres où Marx avait publié une lettre datée du 6 janvier 1871, dont voici la traduction. La rédaction du Daily News lui avait donné pour titre, ouvrez les guillemets, « La liberté de la presse et de la parole en Allemagne », fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Monsieur, lorsque Bismarck accusa le gouvernement français de, entre guillemets, avoir rendu impossible en France d'exprimer librement son opinion par l'intermédiaire de la presse et de mandataires, fermez les guillemets, il n'avait guère en vue que de faire une simple plaisanterie berlinoise. Si vous désirez faire connaissance avec la véritable, entre guillemets, opinion française, adressez-vous, s'il vous plaît, à M. Stieber, éditeur du Moniteur de Versailles et notoire mouchard prussien. Sur l'ordre express de Bismarck, messieurs Bebel et Liebknecht ont été arrêtés sous l'inculpation de haute trahison, tout simplement parce qu'ils avaient osé remplir leur devoir de mandataires allemands, c'est-à-dire de protester au Reichstag contre l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine, de voter contre de nouveaux crédits de guerre, d'exprimer leur sympathie envers la République française et de dénoncer la tentative de transformer l'Allemagne en une vaste caserne prussienne. Pour l'expression de vue semblable, les membres du comité social-démocrate de Braunschweig sont traités, depuis le début de septembre dernier, comme des galériens et sont toujours sous le coup de risibles poursuites pour haute trahison. Le même sort s'est abattu sur de nombreux travailleurs qui diffusèrent le manifeste de Braunschweig. Sous des prétextes analogues, M. Heppner, second rédacteur de la Volksstadt de Leipzig, est inculpé de haute trahison. Les rares journaux indépendants allemands qui existent en dehors de la Prusse sont interdits dans les domaines des Hohenzollern. Les meetings des ouvriers allemands, en faveur d'une paix honorable pour la France, sont dispersés journellement par la police, en vertu de la doctrine officielle prussienne que le général Vogel de Falkenstein a naïvement formulée, suivant laquelle tout Allemand est coupable de haute trahison qui essaye de s'opposer aux objectifs de l'état-major prussien en France. Si messieurs Gambetta et compagnie étaient forcés, comme les Hohenzollern, d'opprimer par la violence l'opinion populaire, ils n'auraient qu'à employer la méthode prussienne et, sous prétexte de la guerre, ils proclameraient l'état de siège par toute la France. Les rares soldats français se trouvant en territoire allemand végètent dans les geôles prussiennes. Mais le gouvernement prussien se sent obligé cependant de maintenir rigoureusement l'état de siège, c'est-à-dire la forme la plus brutale et la plus révoltante du despotisme militaire, la suppression de toute loi. Le sol français est infesté par environ 1 million d'envahisseurs allemands, et cependant, le gouvernement français peut, en toute sécurité, renoncer à cette méthode prussienne d'assurer l'expression libre de l'opinion, entre guillemets. Comparez ces deux tableaux. L'Allemagne, cependant, a montré qu'elle est un champ trop étroit pour l'enthousiasme débordant de Bismarck envers la liberté d'opinion. Lorsque les Luxembourgeois donnèrent libre cours à leur sympathie envers la France, Bismarck fit de cette expression de sentiment l'un de ses prétextes pour en dénoncer le traité de neutralité de Londres. Lorsque la presse belge commit un péché semblable, l'ambassadeur prussien à Bruxelles, Herr von Ballen, invita le ministre belge à supprimer non seulement tous les articles anti-prussiens dans les journaux, mais empêcha même la publication des nouvelles destinées à encourager les Français dans leur guerre d'indépendance. Exigence bien modeste en vérité. Suspendre la constitution belge pour le roi de Prusse. À peine quelques journaux de Stockholm se permirent-ils de lancer quelques plaisanteries inoffensives sur la bigoterie célèbre de Guillaume Anexandre, que Bismarck s'abattit sur le cabinet suédois avec des lettres menaçantes. Même sous le méridien de Saint-Pétersbourg, il lui appartenait de découvrir une presse trop licencieuse. Sur sa simple demande, les éditeurs des principales feuilles pétersbourgeoises furent appelés auprès du censeur en chef qui leur ordonna de s'abstenir de toute remarque critique sur le fidèle vassal prussien du tsar. L'un de ses éditeurs, M. Zagouliaïev, eut l'imprudence de dévoiler dans les colonnes du « Golos » le secret de cet avertissement. Aussitôt, la police russe lui sauta dessus et l'expédia dans quelques provinces éloignées. Ce serait une erreur de croire que ces procédés de gendarmes sont à attribuer uniquement au paroxysme de la fièvre guerrière. Ils constituent bien plutôt la véritable application méthodique de l'esprit de la loi prussienne. En fait, le code pénal prussien contient une disposition particulière en vertu de laquelle tout étranger peut être poursuivi dans son propre pays ou dans un autre pour ses actes ou ses écrits, ouvrez les guillemets, pour insulte au roi de Prusse, fermez les guillemets, et, ouvrez les guillemets, haute trahison envers la Prusse, fermez les guillemets. La France, et sa cause est heureusement loin d'être désespérée, combat en ce moment non seulement pour sa propre indépendance nationale, mais pour la liberté de l'Allemagne et de l'Europe. Votre dévoué, Karl Marx. Londres, 12 avril 1871. Cher Kugelmann, nous avons reçu hier la nouvelle nullement rassurante que Lafargue, sans Laura entre parenthèses, était pour l'instant à Paris. Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je remarque, comme tu le verras si tu le relis, que la prochaine tentative de la Révolution en France devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique militaire en d'autres mains, comme ce fut le cas jusqu'ici, mais à la détruire. C'est la condition première de toute révolution véritablement populaire sur le continent. C'est aussi ce qu'ont tenté nos héroïques camarades de Paris. De quelle souplesse, de quelle initiative historique, de quelle faculté de sacrifice sont doués ces Parisiens ? Affamés et ruinés pendant 6 mois par la trahison intérieure plus encore que par l'ennemi, ils se soulevèrent sous les baïonnettes prussiennes comme s'il n'y avait jamais eu de guerre entre la France et l'Allemagne, comme si l'étranger n'était pas aux portes de Paris. L'histoire ne connaît pas encore d'exemple d'une pareille grandeur. S'ils succombent, seul leur caractère de bon garçon en sera cause. Il eût fallu marcher aussitôt sur Versailles après que Vinoy d'abord et ensuite les éléments réactionnaires de la garde nationale parisienne eussent laissé le champ libre. Par scrupule de conscience, on laissa passer le moment favorable. On ne voulut pas commencer la guerre civile, comme si ce méchant avorton de Thiers ne l'avait pas déjà commencé en tentant de désarmer Paris. Deuxième faute. Le comité central se démit trop tôt de ses fonctions pour faire place à la commune. Encore par un trop grand scrupule, ouvrez les guillemets, d'honneur, fermez les guillemets. Quoi qu'il en soit, l'insurrection actuelle de Paris, même succombant devant les loups, les cochons et les sales chiens de la vieille société, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l'insurrection parisienne de juin. Que l'on compare les titans de Paris aux esclaves du Saint-Empire romain prusso-germanique, avec ses mascarades posthumes, ses relents de casernes et d'églises, de féodalité et surtout de philistins. À propos, la publication officielle des noms de ceux qui ont reçu directement des subsides de la cassette de Louis Bonaparte révèle que Focht a touché 40 000 francs en août 1859. J'ai communiqué le fait à Liebknecht pour qu'il en fasse usage. Ton Karl Marx. 17 avril 1871. Cher Kugelmann, ta lettre est bien arrivée. Je suis en ce moment accablé de besogne. Aussi, quelques mots seulement. Je ne peux absolument pas comprendre comment tu peux comparer des démonstrations petites bourgeoises à la 13 juin 1849, etc., avec la lutte actuelle à Paris. Note de bas de page. Le 13 juin 1849, la Montagne organisa une démonstration à Paris pour protester contre le renversement violent de la République romaine par les troupes françaises. Elle fut très facilement dispersée et ce fut le signal de la banqueroute de la démocratie révolutionnaire petite bourgeoise. Il serait évidemment fort commode de faire l'histoire si l'on ne devait engager la lutte que, ouvrez les guillemets, avec des chances infailliblement favorables, fermez les guillemets. D'autre part, elle serait de nature fort mystique si les « hasards » entre guillemets n'y jouaient aucun rôle. Ces cas fortuits rentrent naturellement dans la marche générale de l'évolution et se trouvent compensés par d'autres hasards. Mais l'accélération ou le ralentissement du mouvement dépendent beaucoup de semblables « hasards » entre guillemets, parmi lesquels figure aussi le « hasard » entre guillemets du caractère des chefs appelés les premiers à conduire le mouvement. Pour cette fois, il ne faut nullement rechercher le « hasard » entre guillemets malheureux et décisif dans les conditions générales de la société française, mais dans la présence des Prussiens en France et dans leur position si près de Paris. Les Parisiens savaient très bien cela. C'est ce que savaient bien aussi les canailles bourgeoises de Versailles. C'est justement pourquoi elles placèrent les Parisiens devant l'alternative ou de relever le défi ou de succomber sans combat. Dans le dernier cas, la démoralisation de la classe ouvrière serait un malheur bien plus grand que la perte d'un nombre quelconque de chefs, entre guillemets. Grâce au combat livré par Paris, la lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste et son État capitaliste est entrée dans une nouvelle phase. Mais quelle qu'en soit l'issue, nous avons obtenu un nouveau point de départ d'une importance historique universelle. Adieu, Karl Marx. Londres, 18 juin 1871. Cher Kugelmann, il faut que tu me pardonnes mon silence, maintenant encore, j'ai juste le temps de t'écrire quelques lignes. Tu sais que, pendant toute la durée de la dernière révolution parisienne, j'ai été dénoncé comme, ouvrez les guillemets, grand chef de l'international, fermez les guillemets, par les feuilles versaillaises, ouvrez la parenthèse, avec la collaboration de Stiber, fermez la parenthèse, et par répercussion, par les journalistes d'ici. Et là-dessus, vint s'ajouter l'adresse que tu dois avoir reçue. Elle fait un bruit du diable, et j'ai l'honneur d'être, en ce moment, l'homme le plus calomnié et le plus menacé de Londres. Cela fait vraiment du bien, après 20 ans d'une ennuyeuse idylle. La feuille gouvernementale, l'Observeur, me menace de poursuites judiciaires. Qu'ils osent. Je me moque bien de ces canailles-là. Je joins à ma lettre une coupure de l'Eastern Post. Elle contient notre réponse à la circulaire de Jules Favre. Notre réplique apparut d'abord dans le Times du 13 juin. Cette honorable feuille a reçu pour cette indiscrétion une forte réprimande de M. Bob Lowe, chancelier de l'échiquier et membre du conseil de surveillance du Times. Mes meilleurs remerciements pour les Reuters et my best compliments to Madame la Comtesse et à ma chère Frenchen. Ton Karl Marx. Lettre de Karl Marx au professeur E. S. Beasley. 12 septembre 1870. Cher monsieur, mercredi dernier, N. Serraillé, membre du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, est allé à Paris comme plénipotentiaire du Conseil. Il a cru de son devoir d'y demeurer, non seulement pour participer à la défense, mais pour faire peser son influence sur notre Conseil fédéral de Paris, et il est, c'est un fait, un homme d'une qualité intellectuelle. D'après les journaux prussiens semi-officiels, tels que la Gazette de Cologne, je vois que ce vieil âne de roi Guillaume, fidèle aux traditions de famille des Hohenzollern, se prosterne déjà aux pieds du tsar et l'implore d'avoir la magnanimité de l'employer comme son domestique homme contre les Turcs. Récemment, la réaction a déjà débuté en Allemagne, à commencer par nos gens à Braunschweig qui ont, comme je vous l'ai écrit, étaient mis en route enchaînés, comme de vulgaires traîtres, dans la direction de la frontière de l'Est. Mais cela n'est qu'un fait entre mille. Après la première guerre d'indépendance allemande contre Napoléon Ier, la chasse sauvage et féroce donnée par le gouvernement aux soi-disant démagogues, ouvrez la parenthèse, die demagogischen Untersuchungen, fermez la parenthèse, se poursuivit pendant 20 années. Mais elle ne débuta qu'après la fin de la guerre. Maintenant, elle commence avant la conclusion de la paix. Alors, leur persécution était dirigée contre les idéalistes soufflés et les jeunes gens frivoles, ouvrez la parenthèse, étudiants des universités, fermez la parenthèse, de la classe moyenne, bureaucratie et aristocratie. Elles sont maintenant dirigées contre la classe ouvrière. Pour ma part, je suis enchantée de tous ces méfaits du gouvernement prussien. Ils vont agiter l'Allemagne. Maintenant, ce que je pense que vous devriez faire, c'est ceci. La première adresse du Conseil général sur la guerre n'a été publiée en entier que par le Pall Mall. Mais des extraits et même des articles de tête à son sujet ont paru dans beaucoup d'autres journaux. Cette fois, bien que l'adresse ait été envoyée à tous les journaux de Londres, pas un n'en a pris la moindre note, excepté le Pall Mall, qui en a donné un très court extrait. En passant, ce journal, qui vous traite si gentiment dans son numéro d'hier, a certaines obligations privées à mon égard. Je lui ai offert les, ouvrez les guillemets, notes sur la guerre, fermez les guillemets, de mon ami Engels. J'ai agi ainsi à la requête de A.B. qui, de temps en temps, a passé en contrebande quelques entrefilés sur l'international dans le pêle-mêle. De là vient que notre seconde adresse n'ait pas été entièrement étouffée dans ce journal. Du continent où les gens avaient et ont l'habitude, même à Moscou et Saint-Pétersbourg, même dans les journaux français sous la domination bonapartiste, même actuellement à Berlin, de voir les manifestes de l'international traités sérieusement et reproduits en entier par un journal ou l'autre, nous avons été plus d'une fois tensés pour notre négligence à user de la « libre » entre guillemets presse de Londres. Ils ne se font certes aucune sorte d'idée de ce qu'est, et ils n'y croiront pas, la corruption totale de ce vil consortium depuis longtemps flétri par William Cobbett comme, ouvrez les guillemets, mercenaire, infâme et illettré, fermez les guillemets. Maintenant, je crois que vous rendriez le plus grand service possible à l'international et je prendrai grand soin de reproduire votre article dans nos journaux en Espagne, Italie, Suisse, Belgique, Hollande, Danemark, Hongrie, Allemagne, France et États-Unis, si vous publiez dans la Fortnightly Review quelque chose sur l'international, les manifestes du Conseil général sur la guerre et le traitement que nous avons subi aux mains de ce chef-d'œuvre de presse, de cette libre entre guillemets presse anglaise. Ces types sont en fait plus asservis à la police prussienne que les journaux de Berlin. Lafargue, maintenant directeur d'un journal à Bordeaux, vous envoie, à vous et à Madame Beasley, ses meilleurs compliments. Fidèlement à vous, Karl Marx.